L'Odyssée, chant 19e. Mais le divin Odysseus resta dans la demeure, méditant avec Athénée la mort des prétendants. Et aussitôt, il dit à Télémachos ces paroles ailées. Télémachos, il faut transporter toutes les armes guerrières hors de la salle, et quand les prétendants te les demanderont, les tromper par ces douces paroles. Je les ai mises à l'abri de la fumée, car elles ne sont pas telles qu'elles étaient autrefois, quand Odysseus les laissa à son départ pour Troie. Mais elles sont souillées par la grande vapeur du feu. Puis le Cronion m'a inspiré une autre pensée meilleure. Et je crains qu'excité par le vin et une querelle s'élevant parmi vous, vous vous blessiez les uns les autres et vous souillez le repas et vos noces futures, car le fer attire l'homme. Il parla ainsi, et Télémachos obéit à son cher père. Et ayant appelé la nourrice Eurycléia, il lui dit: « Nourrice, enferme les femmes dans les demeures, jusqu'à ce que j'aie transporté dans la chambre nuptiale les belles armes de mon père, qui ont été négligées, et que la fumée a souillées pendant l'absence de mon père, car j'étais encore enfant. Maintenant, je vais les transporter là où la vapeur du feu n'ira pas. » Et la chère nourrice Eurycléia lui répondit: « Plaise aux dieux, mon enfant, que tu aies toujours la prudence de prendre soin de la maison, et de conserver toutes tes richesses. Mais qui t'accompagnera en portant une lumière, puisque tu ne veux pas que les servantes t'éclairent ?» Et le prudent Télémachos lui répondit: « Ce sera cet étranger. Je ne laisserai pas sans rien faire, puisqu'il a mangé à ma table, bien qu'il vienne de loin. » Il parla ainsi, et sa parole ne fut point vaine, et Eurycléia ferma les portes des grandes demeures. Puis Odysseus et son illustre fils se hâtèrent de transporter les casques, les boucliers bombés et les lances aiguës. Et Pallas Athénée, portant devant eux une lanterne d'or, les éclairait vivement. Et alors, Télémachos dit aussitôt à son père: « Ô père, certes, je vois de mes yeux un grand prodige. Voici que les murs de la demeure, et ses belles poutres, et ses solives de sapin, et ses hautes colonnes, brillent comme un feu ardent. Certes, un des dieux qui habite le large Ouranos est entré ici. » Et le subtil Odysseus lui répondit: « Tais-toi, et retiens ton esprit, et ne m'interroge pas. Telle est la coutume des dieux qui habitent l'Olympos. Toi, va dormir. Je resterai ici, afin d'éprouver les servantes et ta mère. Dans sa douleur, elle va m'interroger sur beaucoup de choses. » Il parla ainsi, et Télémachos sortit de la salle, et il monta, éclairé par les torches flambantes, dans la chambre où il avait coutume de dormir. Là, il s'endormit, en attendant le matin. Et le divin Odysseus resta dans la demeure, méditant avec Athénée la mort des prétendants. Et la prudente Pénélopéia, semblable à Artémis ou Aphrodite d'or, sortit de sa chambre nuptiale. Et les servantes placèrent pour elle, devant le feu, le trône où elle s'asseyait. Il était d'ivoire et d'argent, et travaillé autour. Et c'était l'ouvrier Icmalios qui l'avait fait autrefois, ainsi qu'un escabeau pour appuyer les pieds de la reine, et qui était recouvert d'une grande peau. Ce fut là que s'assit la prudente Pénélopéia. Alors, les femmes aux bras blancs vinrent de la demeure, et elles emportèrent les pains nombreux, et les tables, et les coupes dans lesquelles les prétendants insolents avaient bu. Et elles jetèrent à terre le feu des torches, et elles amassèrent par-dessus du bois qui devait les éclairer et les chauffer. Et alors, Mélanto injuria de nouveau Odysseus: « Étranger, te voilà encore qui erres dans la demeure, épiant les femmes. Sors d'ici, misérable, après t'être rassasié, ou je te frapperai de ce tison. » Et le sage Odysseus, la regardant d'un œil sombre, lui dit: « Malheureuse, pourquoi m'outrager avec fureur? Est-ce parce que je suis vêtu de haillons et que je mendie parmi le peuple comme la nécessité m'y contraint? Tels sont les mendiants et les vagabonds. Et moi aussi, autrefois, j'étais heureux et j'habitais une riche demeure et je donnais aux vagabonds, quels qu'ils fussent et quels que fussent leurs besoins. Et j'avais de nombreux serviteurs et tout ce qui rend heureux est fait appeler un homme riche. Mais le Cronion Zeus m'a tout enlevé, le voulant ainsi. C'est pourquoi, femme, crains de perdre un jour la beauté dont tu es ornée parmi les servantes. crains que ta maîtresse irritée te punisse, ou qu'Odysseus revienne, car tout espoir n'est pas perdu. Mais s'il a péri, et s'il ne doit plus revenir, son fils Télémachos le remplace par la volonté d'Apollon, et rien de ce que font les femmes dans les demeures ne lui échappera, car rien n'est plus au-dessus de son âge. » Il parla ainsi, et la prudente Pénélopéia, l'ayant entendu, réprimanda sa servante et lui dit « Chienne audacieuse, tu ne peux me cacher ton insolence effrontée, que tu paieras de ta tête, car tu sais bien, m'ayant entendu toi-même, que je veux, étant très affligée, interroger cet étranger sur mon mari. » Elle parla ainsi, et elle dit à l'intendante Eurynomée « Eurynomée, approche un siège et recouvre-le d'une peau, afin que cet étranger, s'étant assis, m'écoute et me réponde, car je veux l'interroger. » Elle parla ainsi, et Eurynomée approcha à la hâte un siège poli qu'elle recouvrit d'une peau, et le patient et divin Odysseus s'y assit, et la prudente Pénélopéia lui dit « Étranger, je t'interrogerai d'abord sur toi-même. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où sont ta ville et tes parents ?» Et le sage Odysseus lui répondit « Ô femme, aucune des mortelles qui sont sur la terre immense ne te vaut. Et certes, ta gloire est parvenue jusqu'au large Ouranos, telle que la gloire d'un roi irréprochable, qui, vénérant les dieux, commande à de nombreux et braves guerriers et répand la justice. Et par lui la terre noire produit l'orge et le blé, et les arbres sont lourds de fruits, et les troupeaux multiplient, et la mer donne des poissons, et sous ses lois équitables, les peuples sont heureux et justes. C'est pourquoi, maintenant, dans ta demeure, demande-moi toutes les autres choses, mais non ma race et ma patrie. N'emplis pas ainsi mon âme de nouvelles douleurs, en me faisant souvenir, car je suis très affligée, et je ne veux pas pleurer et gémir dans une maison étrangère, car il est honteux de pleurer toujours. Peut-être qu'une de tes servantes m'outragerait, ou que tu t'irriterais toi-même, disant que je pleure ainsi, ayant l'esprit troublé par le vin. » Et la prudente Pénélopéia lui répondit « Étranger, certes, les dieux m'ont ravi ma vertu et ma beauté, du jour où les Argiens sont partis pour Ilios, et avec eux, mon mari Odysseus. S'il revenait et gouvernait ma vie, ma gloire serait plus grande et plus belle. Mais maintenant je gémis, tant un démon funeste m'a accablé de maux. Voici que ceux qui dominent dans les îles, à Doulichios, à Samé, à Zakynthos couverte de bois, et ceux qui habitent l'Aprita qu'elle-même, tous me recherchent malgré moi et ruinent ma maison. Et je ne prends plus soin des étrangers, ni des suppliants, ni des héros qui agissent en public. Mais je regrette Odysseus, et je gémis dans mon cher cœur. Et les prétendants hâtent mes noces, et je médite des ruses. Et d'abord, un dieu m'inspira de tisser dans mes demeures une grande toile, large et fine, et je leur dis aussitôt, « Jeunes hommes, mes prétendants, puisque le divin Odysseus est mort, cessez de hâter mes noces, jusqu'à ce que j'aie achevé, pour que mes fils ne restent pas inutiles, ce linceul du héros Laertès, quand la moire mauvaise de la mort inexorable l'aura saisi, afin qu'aucune des femmes achéennes ne puisse me reprocher devant tout le peuple qu'un homme qui a possédé tant de biens ait été enseveli sans linceul. » Je parlais ainsi, et leur cœur généreux fut persuadé. Et alors, pendant le jour, je tissais la grande toile, et pendant la nuit, ayant allumé des torches, je la défaisais. Ainsi, pendant 3 ans, je cachais ma ruse et trompais les Achéens. Mais quand vint la 4e année, et quand les saisons recommencèrent, après le cours des mois et des jours nombreux, alors, avertis par mes chiennes de servantes, ils me surprirent et me menacèrent, et contre ma volonté, je fus contrainte d'achever ma toile. Et maintenant, je ne puis plus éviter mes noces, ne trouvant plus aucune ruse. Et mes parents m'exhortent à me marier, et mon fils supporte avec peine que ceci dévore ses biens, auxquels il tient, car c'est aujourd'hui un homme, et il peut prendre soin de sa maison, et Zeus lui a donné la gloire. Mais toi, étranger, dis-moi ta race et ta patrie, car tu ne sors pas du chêne et du rocher des histoires antiques. » Et le sage Odysseus lui répondit : Ô femme vénérable du Laertia d'Odysseus, ne cesseras-tu point de m'interroger sur mes parents ? Je te répondrai donc, bien que tu renouvelles ainsi mes maux innombrables. Mais c'est là la destinée d'un homme, depuis longtemps absent de la patrie, tel que moi, qui errais parmi les villes des hommes, étant accablé de maux. Je te dirai cependant ce que tu me demandes. La Crète est une terre qui s'élève au milieu de la sombre mer, belle et fertile, où habitent d'innombrables hommes et où il y a 90 villes. On y parle des langages différents, et on y trouve des Achéens, de magnanimes crétois indigènes, des Kidones, trois tribus de Doriens et les divins Pélages. Sur eux tous domine la grande ville de Knossos, où régna Minos, qui s'entretenait tous les 9 ans avec le grand Zeus, et qui fut le père du magnanime de Callion, mon père. Et de Callion nous engendra, moi et le roi Idoménéus. Et Idoménéus alla, sur ses nefs à proue recourbées, à Ilios, avec les Atréides. Mon nom illustre est Aïton, et j'étais le plus jeune. Idoménéus était l'aîné et le plus brave. Je vis alors Odysseus, et je lui offris les dons hospitaliers. En effet, comme il allait à Ilios, la violence du vent l'avait poussé en Crète, loin du promontoire maléen, dans Amnisos, où est la caverne des Ilitis. Et dans ce port difficile, à peine évita-t-il la tempête. Arrivé à la ville, il demanda à Idoménéus, qu'il appelait son hôte cher et vénérable. Mais Éos avait reparu, pour la 10e ou 11e fois, depuis que sur ses nefs à proue recourbées, Idoménéus était parti pour Ilios. Alors, je conduisis Odysseus dans mes demeures, et je le reçus avec amitié, et je le comblai de soins à l'aide des richesses que je possédais. Et je lui donnai, ainsi qu'à ses compagnons, de la farine, du vin rouge et des bœufs à tuer, jusqu'à ce que leur âme fût rassasiée. Et les divins Achéens restèrent là 12 jours, car le grand et tempétueux Boréas soufflait et les arrêtait, excités par quelques démons. Mais le vent tomba le 13e jour, et ils partirent. Il parlait ainsi, disant ses nombreux mensonges semblables à la vérité. Et Pénélopéia, en l'écoutant, pleurait. Et ses larmes ruisselaient sur son visage, comme la neige ruisselle sur les hautes montagnes, après que Zéphyros l'a amoncelé, et que l'Euros la fonte en torrents qui emplissent les fleuves. Ainsi, les belles joues de Pénélopéia ruisselaient de larmes, tandis qu'elle pleurait son mari. Et Odysseus était plein de compassion en voyant pleurer sa femme. Mais ses yeux, comme la corne et le fer, restait immobile sous ses paupières, et il arrêtait ses larmes par prudence. Et après qu'elle se fut rassasiée de larmes et de deuil, Pénélopéia lui répondant, dit de nouveau, « Maintenant, étranger, je pense que je vais t'éprouver, et je verrai si, comme tu le dis, tu as reçu dans tes demeures mon mari et ses divins compagnons. Dis-moi quels étaient les vêtements qui le couvraient, quel il était lui-même, et quels étaient les compagnons qui le suivaient. » Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi. Ô femme, il est bien difficile après tant de temps de te répondre, car voici la 20e année qu'Odysseus est venu dans ma patrie, et qu'il en est parti. Cependant, je te dirai ce dont je me souviens dans mon esprit. Le divin Odysseus avait un double manteau de laine pourprée, qu'attachait une agrafe d'or à 2 tuyaux, et orné par-dessus d'un chien qui tenait sous ses pattes de devant un jeune cerf tremblant. Et tous admiraient, s'étonnant que ces 2 animaux fussent d'or, ce chien qui voulait étouffer le faon, et celui-ci qui, palpitant sous ses pieds, voulait s'enfuir. Et je vis aussi sur le corps d'Odysseus une tunique splendide, fine comme une pelure d'oignon. Cette tunique brillait comme Hélios. Et certes, toutes les femmes l'admiraient. Mais je te le dis, et retiens mes paroles dans ton esprit. Je ne sais si Odysseus portait ses vêtements dans sa demeure, ou si quelqu'un de ses compagnons les lui avait donnés, comme il montait sur sa nef rapide, ou bien quelqu'un d'entre ses hôtes, car Odysseus était aimé de beaucoup d'hommes, et peu d'Achéens étaient semblables à lui. Je lui donnai une épée d'airain, un double et grand manteau pourpré et une tunique longue, et je le conduisis avec respect sur sa nef à banc de rameurs. un héros, un peu plus âgé que lui, le suivait. Et je te dirai quel il était. Il avait les épaules hautes, la peau brune et les cheveux crépus. Et il se nommait Eurybates. Et Odysseus l'honorait entre tous ses compagnons, parce qu'il était plein de sagesse. Il parla ainsi. Et le désir de pleurer saisit Pénélopeia, car elle reconnut ces signes certains que lui décrivait Odysseus. Et après qu'elle se fut rassasiée de larmes et de deuil, elle dit de nouveau « Maintenant, ô mon hôte auparavant misérable, tu seras aimé et honoré dans mes demeures. J'ai moi-même donné à Odysseus ces vêtements que tu décris et qui étaient pliés dans ma chambre nuptiale, et j'y ai attaché cette agrafe brillante. Mais je ne le verrai plus de retour dans la chère terre de la patrie. C'est par une mauvaise destinée qu'Odysseus, montant dans sa nef creuse, est parti pour cette Troie fatale qu'on ne devrait plus nommer. » Et le sage Odysseus lui répondit « Ô femme vénérable du Laertiade Odysseus, ne flétris point ton bon visage et ne te consume point dans ton cœur à pleurer. Cependant, je ne te blâme en rien. Quelle femme pleurerait un jeune mari dont elle a conçu des enfants, après s'être unie d'amour à lui, plus que tu dois pleurer, Odysseus, qu'on dit semblable aux dieux. Mais cesse de gémir et écoute-moi. Je te dirai la vérité et je ne te cacherai rien. J'ai entendu parler du retour d'Odysseus chez le riche peuple des Thesprotes, où il a paru vivant, et il rapporte de nombreuses richesses qu'il a amassées parmi beaucoup de peuples. Mais il a perdu ses chers compagnons et sa nef creuse dans la noire mer, en quittant Trinakié. Zeus et Hélios étaient irrités parce que ses compagnons avaient tué les bœufs de Hélios, et ils ont tous péri dans la mer tumultueuse. Mais la mer a jeté Odysseus, attaché à la carène de sa nef, sur la côte des Phaïakiens qui descendent des dieux. Et ils l'ont honoré comme un dieu, et ils lui ont fait de nombreux présents, et ils ont voulu le ramener sain et sauf dans sa demeure. Odysseus serait donc déjà revenu depuis longtemps, mais il lui a semblé plus utile d'amasser d'autres richesses en parcourant beaucoup de terres. Car il sait un plus grand nombre de ruses que tous les hommes mortels, et nul ne pourrait lutter contre lui. Ainsi me parla Phédon, le roi des Thesprotes, et il me jura, en faisant des libations dans sa demeure, que la nef et les hommes étaient prêts, qui devaient reconduire Odysseus dans la chère terre de sa patrie. Mais il me renvoya d'abord, profitant d'une nef des Thesprotes qui allait à Doulichios, fertile en blé. Et il me montra les richesses qu'avait réunies Odysseus, de l'airain, de l'or, et du fer très difficile à travailler, le tout assez abondant pour nourrir jusqu'à sa 10e génération. Et il me disait qu'Odysseus était allé à Dodonée pour apprendre du grand chêne la volonté de Zeus, et pour savoir comment, depuis longtemps absent, il rentrerait dans la terre d'Ithaque, soit ouvertement, soit en secret. Ainsi, Odysseus est sauvé, et il viendra bientôt, et désormais, il ne sera pas longtemps éloigné de ses amis et de sa patrie. Et je te ferai un grand serment. Qu'il le sache, Zeus, le meilleur et le plus grand des dieux, est la demeure du brave Odysseus où je suis arrivé. Tout s'accomplira comme je le dis. Odysseus reviendra avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, dans quelques jours. Et la prudente Pénélopeia lui répondit : Plaise aux dieux étrangers, que tes paroles s'accomplissent. Je te prouverai aussitôt mon amitié par de nombreux présents, et chacun te dirait heureux. Mais je sens dans mon cœur que jamais Odysseus ne reviendra dans sa demeure, et que ce n'est point lui qui te renverra. Il n'y a point ici de chef tel qu'Odysseus parmi les hommes, si jamais il en a existé, qui congédie les étrangers après les avoir accueillis et honorés. Maintenant, servante, baignez notre hôte, et préparez son lit avec des manteaux et des couvertures splendides, afin qu'il ait chaud, en attendant Théos au trône d'or. Puis au matin, baignez et parfumez-le, afin qu'assis dans la demeure, il prenne son repas auprès de Télémachos. Il arrivera malheur à celui d'entre eux qui l'outragera, et qu'il ne soit soumis à aucun travail, quel que soit celui qui s'en irrite. Comment, ô étranger, reconnaîtrais-tu que je l'emporte sur les autres femmes par l'intelligence et par la sagesse, si manquant de vêtements, Tu t'asseyais en haillon au repas dans les demeures. La vie des hommes est brève. Celui qui est injuste et commet des actions mauvaises, les hommes le chargent d'imprécations tant qu'il est vivant, et ils le maudissent quand il est mort. Mais celui qui est irréprochable et qui a fait de bonnes actions, les étrangers répandent au loin sa gloire, et tous les hommes le louent. Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi. Ô femme vénérable du Laertiade Odysseus, les beaux vêtements et les couvertures splendides me sont odieux. Depuis que sur ma nef aux longs avirons, j'ai quitté les montagnes neigeuses de la Crète. Je me coucherai, comme je l'ai déjà fait pendant tant de nuits sans sommeil, sur une misérable couche, attendant la belle et divine Éos. Les bains de pieds non plus ne me plaisent point, et aucune servante ne me touchera les pieds, à moins qu'il n'y en ait une, vieille et prudente parmi elles, et qui ait autant souffert que moi. Je n'empêche point celle-ci de me laver les pieds. Et la prudente Pénélopéia lui répondit, « Cher hôte, aucun homme n'est plus sage que toi de tous les étrangers amis qui sont venus dans cette demeure, car tout ce que tu dis est plein de sagesse. J'ai ici une femme âgée et très prudente, qui nourrit et éleva autrefois le malheureux Odysseus, et qui l'avait reçu dans ses bras quand sa mère l'eut enfanté. Elle lavera tes pieds, bien qu'elle soit faible. Viens, lève-toi, prudente Ricléia. Lave les pieds de cet étranger qui a l'âge de ton maître. Peut-être que les pieds et les mains d'Odysseus ressemblent aux siens, car les hommes vieillissent vite dans le malheur. » Elle parla ainsi, et la vieille femme cacha son visage dans ses mains, et elle versa de chaudes larmes, et elle dit ces paroles lamentables. « Hélas, je suis sans force pour te venir en aide, ô mon enfant. Assurément Zeus te hait entre tous les hommes, bien que tu aies un esprit pieux. Aucun homme n'a brûlé plus de cuisses grâce à Zeus, qui se réjouit de la foudre, ni d'aussi complètes hécatombes. Tu le suppliais de te laisser parvenir à une pleine vieillesse et de te laisser élever ton fils illustre, et voici qu'il t'a enlevé le jour du retour. Peut-être aussi que d'autres femmes l'outragent quand il entre dans les illustres demeures où parviennent les étrangers, comme ces chiennes-ci t'outragent toi-même. Tu fuis leurs injures et leurs paroles honteuses, et tu ne veux point qu'elles te lavent. Et la fille d'Icarios, la prudente Pénélopéia, m'ordonne de le faire, et j'y consens. C'est pourquoi je laverai tes pieds, pour l'amour de Pénélopéia et de toi, car mon cœur est ému de tes mots. Mais écoute ce que je vais dire. De tous les malheureux étrangers qui sont venus ici, aucun ne ressemble plus que toi à Odysseus. Tu as son corps, sa voix et ses pieds. » Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi. « Ô vieille femme, en effet, tous ceux qui nous ont vus tous deux de leurs yeux disent que nous nous ressemblons beaucoup. Tu as parlé avec sagesse. » Il parla ainsi. Et la vieille femme prit un bassin splendide dans lequel on lavait les pieds. Et elle y versa beaucoup d'eau froide, puis de l'eau chaude. Et Odysseus s'assit devant le foyer, en se tournant vivement du côté de l'ombre, car il craignit aussitôt, dans son esprit, qu'en le touchant elle reconnut sa cicatrice, et que tout fût découvert. Ricléia, s'approchant de son roi, lava ses pieds, et aussitôt elle reconnut la cicatrice de la blessure qu'un sanglier lui avait faite autrefois de ses blanches dents sur le Parnésos, quand il était allé chez Autolycos et ses fils. Autolycos était l'illustre père de sa mère, et il surpassait tous les hommes pour faire du butin et de faux serments. Un dieu lui avait fait ce don, Herméias, pour qui il brûlait des chairs d'agneaux et de chevreaux, et qui l'accompagnait toujours. Et Autolycos étant venu chez le riche peuple d'Ithaque, il trouva le fils nouveau-né de sa fille. Et Eurycléia, après le repas, posa l'enfant sur les chers genoux d'Autolycos, et lui dit, « Autolycos, donne-toi même un nom au cher fils de ta fille, puisque tu l'as appelé par tant de vœux. » Et Autolycos lui répondit, « Mon gendre et ma fille, donnez-lui le nom que je vais dire. Je suis venu ici, très irrité contre un grand nombre d'hommes et de femmes, sur la face de la terre nourricière. Que son nom soit donc Odysseus. Quand il sera parvenu à la puberté, qu'il vienne sur le Parnésos, dans la grande demeure de son aïeul maternel, où sont mes richesses, et je lui en ferai de nombreux présents, et je le renverrai plein de joie. » Et à cause de ces paroles, Odysseus y alla, afin de recevoir de nombreux présents. Et Autolycos et les fils d'Autolycos le saluèrent des mains, et le reçurent avec de douces paroles. Amphitée, la mère de sa mère, l'embrassa, baisant sa tête et ses deux beaux yeux. Et Autolycos ordonna à ses fils illustres de préparer le repas. Aussitôt, ceux-ci obéirent et amenèrent un taureau de 5 ans qu'ils écorchèrent. Puis le préparant, ils le coupèrent en morceaux qu'ils embrochèrent, firent rôtir avec soin et distribuèrent. Et tout le jour, jusqu'à la chute de Hélios, ils mangèrent, et nul dans son âme ne manqua d'une part égale. Quand Hélios tomba et que les ténèbres survinrent, ils se couchèrent et s'endormirent. Mais quand Théos, au doigt rosé, né au matin, apparut, les fils d'Autolycos et leurs chiens partirent pour la chasse, et le divin Odysseus alla avec eux. Et ils gravirent le haut Parnésos couvert de bois, et ils pénétrèrent bientôt dans les gorges battues des vents. Hélios, à peine sorti du cours profond d'Okéanos, frappait les campagnes, quand les chasseurs parvinrent dans une vallée, et les chiens les précédaient, flairant une piste. Et derrière eux venaient les fils d'Autolycos, et avec eux, après les chiens, le divin Odysseus marchait, agitant une longue lance. Là, dans le bois épais, était couché un grand sanglier, et la violence humide des vents ne pénétrait point ce hallier, et le splendide Hélios ne le perçait point de ses rayons, et la pluie n'y tombait point, tant il était épais. Et le sanglier était couché là, sous un monceau de feuilles, et le bruit des hommes et des chiens parvint jusqu'à lui. Et quand les chasseurs arrivèrent, il sortit du hallier à leur rencontre, les soies hérissées sur le cou et le feu dans les yeux, et il s'arrêta près des chasseurs. Alors le premier, Odysseus, levant sa longue lance de sa forte main, se rua, désirant le percer. Mais le sanglier, le prévenant, le blessa au genou d'un coup oblique de ses défenses, et enleva profondément les chairs, mais sans arriver jusqu'à l'os. Et Odysseus le frappa à l'épaule droite, et la pointe de la lance brillante le traversa de part en part, et il tomba, étendu dans la poussière, et son âme s'envola. Aussitôt, les chers fils d'Autolycos, s'empressant autour de la blessure de l'irréprochable et divin Odysseus, la bandèrent avec soin, et arrêtèrent le sang noir par une incantation. Puis ils rentrèrent aux demeures de leur cher père. Et Autolycos et les fils d'Autolycos, ayant guéri Odysseus et lui ayant fait de riches présents, le renvoyèrent plein de joie dans sa chère Ithaque. Là, son père et sa mère vénérable se réjouirent de son retour et l'interrogèrent sur chaque chose et sur cette blessure qu'il avait reçue. Et il leur raconta qu'un sanglier l'avait blessé de ses défenses blanches à la chasse, où il était allé sur le Parnésos avec les fils d'Autolycos. Et voici que la vieille femme, touchant de ses mains cette cicatrice, la reconnut, et laissa retomber le pied dans le bassin des reins, qui résonna et se renversa, et toute l'eau fut répandue à terre. Et la joie et la douleur envahirent à la fois l'âme de Ricléa, et ses yeux s'emplirent de larmes, et sa voix fut entrecoupée. Et saisissant le menton d'Odysseus, elle lui dit: « Certes, tu es Odysseus, mon cher enfant. Je ne t'ai point reconnu avant d'avoir touché tout mon maître. » Elle parla ainsi, et elle fit signe des yeux à Pénélopéia pour lui faire entendre que son cher mari était dans la demeure. Mais du lieu où elle était, Pénélopéia ne put la voir ni la comprendre, car Athénée avait détourné son esprit. Alors Odysseus, serrant de la main droite la gorge de Ricléa, et l'attirant à lui de l'autre main, lui dit: « Nourrice, pourquoi veux-tu me perdre, toi qui m'as nourri toi-même de ta mamelle? Maintenant, voici qu'ayant subi bien des maux, j'arrive après 20 ans dans la terre de la patrie. Mais puisque tu m'as reconnu, et qu'un dieu te l'a inspiré, tais-toi, et que personne ne t'entende, car je te le dis, et ma parole s'accomplira. Si un dieu tue par mes mains les prétendants insolents, je ne t'épargnerai même pas, bien que tu sois ma nourrice, quand je tuerai les autres servantes dans mes demeures. » Et la prudente Eurycléia lui répondit, « Mon enfant, quelle parole s'échappe d'entre tes dents? Tu sais que mon âme est constante et ferme. Je me tairai, comme la pierre ou le fer. Mais je te dirai autre chose. Garde mes paroles dans ton esprit. Si un dieu dompte par tes mains les prétendants insolents, je t'indiquerai dans les demeures les femmes qui te méprisent et celles qui sont innocentes. » Et le sage Odysseus lui répondit, « Nourrice, pourquoi me les indiquerais-tu? Il n'en est pas besoin. J'en jugerai moi-même et je les reconnaîtrai. Garde le silence et remets le reste aux dieux. » Il parla ainsi. Et la vieille femme traversa la salle pour rapporter un autre bain de pied, car toute l'eau s'était répandue. Puis ayant lavé et parfumé Odysseus, elle approcha son siège du feu, afin qu'il se chauffât, et elle cacha la cicatrice sous les haillons. Et la sage Pénélopéia dit de nouveau, « Étranger, je t'interrogerai encore quelques instants, car l'heure du sommeil est douce, et le sommeil lui-même est doux pour le malheureux. Pour moi, un dieu m'a envoyé une grande affliction. Le jour, du moins, je surveille en pleurant les travaux des servantes de cette maison, et je charme ainsi ma douleur. Mais quand la nuit vient, et quand le sommeil saisit tous les hommes, je me couche sur mon lit, et autour de mon cœur impénétrable, les pensées amères irritent mes peines. Ainsi que la fille de Pandaros, la verte Aédon, chante au retour du printemps, sous les feuilles épaisses des arbres, d'où elle répand sa voix sonore, pleurant son cher fils Ithylos, qu'engendra le roi Zétoïos, et qu'elle tua autrefois, dans sa démence avec les reins. Ainsi mon âme est agitée, ça et là, hésitant si je dois rester auprès de mon fils, garder avec soin mes richesses, mes servantes et ma haute demeure, et respecter le lit de mon mari et la voix du peuple, ou si je dois me marier, parmi les Achéens qui me recherchent, dans mes demeures, à celui qui est le plus noble et qui m'offrira le plus de présents. Tant que mon fils est resté enfant et sans raison, je n'ai pu ni me marier ni abandonner la demeure de mon mari. Mais voici qu'il est grand et parvenu à la puberté et il me supplie de quitter ses demeures, irrité qu'il est à cause de ses biens que dévorent les Achéens. Mais écoute et interprète-moi ce songe. Vins-toi, sortant de l'eau, mange du blé dans ma demeure, et je les regarde joyeuses. Et voici qu'un grand aigle au bec recourbé, descendu d'une haute montagne, tombe sur leur cou et les tue, et elles restent toutes amassées dans les demeures, tandis que l'aigle s'élève dans l'éther divin. Et je pleure, et je gémis dans mon songe, et les Achéennes aux beaux cheveux se réunissent autour de moi, qui gémis amèrement, parce que l'aigle a tué mes oies. Mais voici qu'il redescend sur le faîte de la demeure, et il me dit avec une voix d'homme, « Rassure-toi, fille de l'illustre Icarios, ceci n'est point un songe, mais une chose heureuse qui s'accomplira. Les oies sont les prétendants, et moi qui semble un aigle, je suis ton mari, qui suis revenu pour infliger une mort honteuse à tous les prétendants. » Il parle ainsi, et le sommeil me quitte, et les cherchant des yeux, je vois mes oies, qui mange le blé dans le bassin comme auparavant. » Et le sage Odysseus lui répondit, « Ô femme, personne ne pourrait t'expliquer ce songe autrement. Et certes, Odysseus lui-même t'a dit comment il s'accomplira. La perte des prétendants est manifeste, et aucun d'entre eux n'évitera l'équerre et la mort. » Et la sage Pénélopéia lui répondit, « Étranger, certes les songes sont difficiles à expliquer, et tous ne s'accomplissent point pour les hommes. Les songes sortent par deux portes, l'une de corne et l'autre d'ivoire. Ceux qui sortent de l'ivoire bien travaillé trompent par de vaines paroles qui ne s'accomplissent pas. Mais ceux qui sortent par la porte de corne polie disent la vérité aux hommes qui les voient. Je ne pense pas que celui-ci sorte de là et soit heureux pour moi et mon fils. Voici venir le jour honteux qui m'emmènera de la demeure d'Odysseus, car je vais proposer une épreuve. » Odysseus avait dans ses demeures des haches qu'il rangeait en ordre, comme des mâts de nef, et debout, il les traversait de loin d'une flèche. Je vais proposer cette épreuve au prétendant. Celui qui de ses mains tendra le plus facilement l'arc et qui lancera une flèche à travers les 12 anneaux des haches, Celui-là, je le suivrai loin de cette demeure si belle, qui a vu ma jeunesse, qui est pleine d'abondance, et dont je me souviendrai, je pense, même dans mes songes. Et le sage Odysseus lui répondit : Ô femme vénérable du Laertia d'Odysseus, ne retarde pas davantage cette épreuve dans tes demeures. Le prudent Odysseus reviendra avant qu'ils aient tendu le nerf. Tirez l'arc poli et envoyez la flèche à travers le fer. » Et la prudente Pénélopéia lui répondit : « Si tu voulais, étranger, assis à côté de moi, me charmer dans mes demeures, le sommeil ne se répandrait pas sur mes paupières. Mais les hommes ne peuvent rester sans sommeil. Et les immortels sur la terre féconde ont fait la part de toute chose aux mortels. Certes, je remonterai donc dans la haute chambre, et je me coucherai sur mon lit plein d'affliction et arrosé de mes larmes, depuis le jour où Odysseus est parti pour cet Ilios fatal qu'on ne devrait plus nommer. Je me coucherai là, et toi, couche dans cette salle, sur la terre ou sur le lit qu'on te fera. » Ayant ainsi parlé, elle monta dans sa haute chambre splendide, mais non pas seule, car deux servantes la suivaient. Et quand elle eut monté avec les servantes dans la haute chambre, elle pleura Odysseus, son cher mari, jusqu'à ce qu'Athénée, aux yeux clairs, eût répandu le doux sommeil sur ses paupières.